donc choisi le titre de l'économie de la non-dépendance pour ce soir, mais je sais que le public est hétérogène. Il y a des étudiants de différentes écoles et d'autres personnes. Et donc, cibler comme ça était quelque chose qui serait un peu étroit, ce n'était pas facile. Alors, j'ai ouvert. Par contre, il y a des questions que je n'aborde pas, mais qui font quand même beaucoup partie de mon travail. Et si vous voulez, vous pourrez poser vos questions après, comme vous voulez. La première image, c'est des nuages, j'ai choisi ça, parce que c'est un renvoi, ça renvoie au jardin planétaire lui-même, au fait que nous soyons dans l'eau. Bon, alors, puisque j'ai commencé là-dessus, je finis sur cette explication-là. Cette eau, qu'il faudra bientôt emballer dans autre chose que du plastique, vous savez, a donc déjà été bu par des plantes, par des animaux et par des humains, plusieurs fois. On est un peu troublé quand on apprend pour la première fois qu'on a déjà bu. Mais oui, on a déjà bu. Ça fait bizarre, mais c'est vrai. Mais bon, là, on transpire, ça s'en va, ça s'évacue dans l'air, dans les ruisseaux, la rivière, ça s'évapore à nouveau, ça fait des nuages, et ça circule autour de la planète. Nous sommes, nous, êtres vivants, tous, aussi bien humains, végétaux, animaux, dans une grande lessiveuse. Nous ne pouvons pas vivre sans cette eau, et cette eau, elle nous brasse, nous sommes, voilà, c'est notre point commun. Et en tant que je pense qu'on ne devrait pas faire payer le mètre cube d'eau, mais bon, parce que ça, c'est un vrai bien commun, puis on ne pourrait pas vivre sans ça. Ce thème, je l'ai organisé en quelques points. Donc j'ai mis 7 points, de l'artisanat à l'industrie, deuxièmement, le paysage du désendettement et l'accès à la gratuité, troisièmement, l'offre possible de la nature, une expérience personnelle, alors celle-là c'est la mienne, c'est mon jardin à la vallée. Je me suis permis de la mettre là parce que j'avais vu le film que vous avez tourné, avec les étudiants qui ont fait leurs travaux, et je me suis dit que ça pourrait peut-être avoir un rapport avec ça. 5, la gestion de l'économie, ne rien faire, éventuellement ne rien faire. 6, le recyclage, et le recyclage. Enseigner tout ça, comment peut-on l'enseigner. Et puis, on finit par ce par quoi j'ai vaguement commencé à retrouver l'eau. Voilà. Donc, cette image montre quelque chose qui est. N'existe pratiquement plus, mais ce sont les bords de la petite Kepka, c'est devenu aujourd'hui touristique. Mais moi, je les ai connus à un moment où c'était la fin d'une exploitation artisanale qui tenait un paysage très particulier sur un impact de superficie modeste sur les îles flottantes, quand le lac monte, il bouge un peu, se repose, quand ça baisse, etc. Et ce flottement, il est résolu par la plante que vous voyez là, qui est une sorte de grangeon un peu creux, et avec qui tout est fabriqué, y compris, ça fabrique un humus dans lequel on cultive. Donc on a la matière à portée de main, permettant de faire une culture qui, toutes les peuples de terre sont originaires de tout le lac, autour du lac Titicaca, vous savez, pratiquement c'est l'origine, et là il y en a quelques variétés qui peuvent pousser là-dedans. Ils en font aussi des objets tels que des bateaux, enfin bref, c'est très impressionnant. C'était, pour ce que vous aurez longtemps que je n'ai pas allé, c'est une photo qui date de 1971. C'est la démonstration du fait qu'on peut arriver à vivre dans des conditions extrêmement modestes, avec une dimension qui est poétique, qui est esthétique, qui a quelque chose à voir avec une résolution esthétique du paysage. Récemment, on est allé faire un atelier dans le sud de l'Italie, à Lecce. Là, il y a un professeur de botanique qui nous explique ce qu'il y a par terre. Mais on est allé dans un lieu très particulier. Ça avait été construit il y a extrêmement longtemps par des paysans, pour ne pas dire encore, qui cultivaient là des petites pois. Pour faire des petits pois, il fallait qu'ils abritent chaque pied, pratiquement c'était un pied de petit pois par muret, et c'est eux qui m'avaient parlé de ce terme qu'ils utilisent là-bas, qui est l'agriculture héroïque. C'est vrai que faire un mur pour un petit pois à chaque fois, c'est courageux. Et là c'est pareil, mais on est dans un autre pays, c'est le pays de Lanzarote. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la question de l'économie de la non-dépense? C'est très difficile à dire, parce que est-ce qu'on dépense là, avec l'argent, rien? Mais avec le temps, oui, il faut les fabriquer. Avec l'énergie, avec ses muscles, avec une volonté. Des choses qui ne sont pas aujourd'hui dans la façon couramment de vivre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Sorcos, qui sont à l'île de Lanzarote, en étant en Canarie. Et aujourd'hui, cette région qui s'appelle Réunion, dans cette île, est très 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 visitée. Il y a 1 million de visiteurs par an. Donc, ils ont gardé la structure, ils la réentiennent, ils la réentretiennent, de façon à ce que ça continue d'avoir un côté attractif. Et le vin qui est sorti, parce que chaque fois, c'est un pied d'un muret en cercle, comme ça, en demi-cercle, qui s'oppose au courant du vent. Il y a un creux très léger, dans lequel l'humidité la nuit vient se condenser et elle augmente le pied de vigne. Il y en a un par muret, parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Ici, il y a un pays où il ne peut pas du tout. Donc ça donne ça. C'est un paysage extraordinaire. Hein. Le paysagiste n'aurait pas d'idée de faire ça. Alors je montre ça, c'est en rapport avec la production et la distribution. Vous avez compris ce que ça veut dire. Sur la question de la distribution, là, on est aujourd'hui dans un vrai désastre. Parce que même si vous achetez quelque chose en bio, ça va être emballé, puis sur-emballé. Je crois qu'ils sont en train un petit peu, on est en train un petit peu de revoir la question. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le fait que on transporte d'un point à l'autre beaucoup trop loin, qu'il faut emballer et sur-emballer beaucoup trop, et qu'au bout d'un moment, on est dans une montagne de déchets. Au Vanuatu, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'années, j'avais été très, très surpris par ça. Il n'y a pas d'emballage. Si par hasard on veut mettre on veut emballer, bon, ben d'accord, on le fait dans une feuille de bananier, ou alors dans un panier tressé, et on écrit le prix du légume sur le légume lui-même. Oui, c'est fantastique. Alors, pour moi, je trouve ça à la fois beau et juste. Ici, on vous dirait, non, c'est interdit, c'est pas hygiénique, il faut ouvrir, je sais pas trop quoi, hein, vous savez, bon, c'est très énervant. Et cet énervement-là, il vient de l'époque, probablement, disons, fin 19e, début 20e, surtout fin début 20e quand même, où on a commencé à nous expliquer qu'il y avait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'est-à-dire, pour avoir un bon ventre et un cigare. C'est marqué engrais chimiques et tout de son côté. L'autre, il a l'air malheureux, sauf que bon, ben, pas plus mal ce qu'il a dans son terrain, je trouve. Donc on est arrivé comme ça, avec tous ces produits qui ont donné des effets extraordinaires. Il faut bien dire qu'à partir du moment où on a commencé avec des machines énormes, des produits chimiques de toutes sortes, les rendements ont été également fantastiques. Et les paysans de l'exploitation de l'agriculture de Moïse, d'accord, artisanale à l'époque, ont vu ce bond fantastique aussi pour eux, quelque chose qui les a soulagés. Mais on ne savait pas qu'on faisait des énormes bêtises à ce moment-là. Ça a pris des dimensions folles, comme vous le savez. Voilà. Donc on nous a appris ça en classe, hein. Ce n'est pas tout à fait les mêmes images, d'accord, mais enfin on nous a appris les recettes avec et la tête de bord est toujours en bas. Donc on a pu fabriquer des paysages complètement différents avec des machines. Ce sont des vignobles au Chili. Là, alors, par exemple ici, on est à l'île Maurice, sur plusieurs temps, plusieurs étapes et des paysages très différents pour des raisons strictement et uniquement économiques. C'est la canne à sucre qui rapporte beaucoup d'argent, sauf qu'avec les accords de Lomé à Maurice, ils avaient un avantage à le vendre, le sucre. Et ils ne le consommaient pas. Ils consommaient du sucre d'Afrique du Sud. Et eux, ils le vendaient, parce que pour eux, c'était bien mieux. Mais il fallait qu'ils gagnent des surfaces, ils sont allés dans des endroits très difficiles, jusqu'à se trouver avec le devoir de faire des petites montagnes de boulets de lave. Et finalement, alors ça c'était le deuxième paysage, le troisième paysage, c'est quand ils ont inventé une machine pour broyer le boulet. Et ça fait un quatrième paysage, quand les accords de Lomé ont cessé, et que c'était plus intéressant du tout, c'est parti en friche. Non, ils pliaient le sucre comme tout le monde. Donc j'avais plus envie de cultiver trop. Et là-dessus, c'est pour ça que j'étais au courant de ça, c'est que j'avais été appelé pour dire mon point de vue là-dessus, parce qu'il y avait des friches. Je dis, ben ça, c'est une chance. Parce que dans une friche, c'est un territoire d'accueil, une diversité qui est qui est partout en péril, quand il est vraiment en danger. Donc on pourrait la garder. Non, ils ont voulu les taxer. Et à cause de ça, ceux qui ne voulaient pas payer les taxes ont passé le glyphosate à l'échelle industrielle. Je ne vous dis pas les dégâts. Ça, c'était au Canada. Vous voyez la transformation du paysage. Là, on est sous plastique. Là, c'est plus élégant. C'est presque une composition artistique, on peut dire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait exprès, hein, celui qui avait ça. Mais il a pris du blanc, du noir, c'est des arbres, c'est pas mal. Sinon, il n'y a rien. Et on peut dire, il y a ça, c'est en Californie, rien. Bon, ça, c'était dans la Creuse, c'est pas pour inventer mon pays, mais c'était mieux. Voilà. Et à propos des emballages, je vous montre ça, c'est pas faire preuve de pub pour Vittel, c'est plutôt une autre pub, mais enfin, disons, c'est assez intéressant d'un point de vue plastique, entre guillemets, excusez-moi. Il y a de l'orange, du rouge, du bleu, dans la rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris chez moi, c'était le résultat du demi-marathon de Paris. Le marathon, ça doit être pire. C'était un demi. Donc voilà, c'est. Mais pourquoi on est-on arrivé là? Quand on sait que tout ça, c'est fini dans l'estomac du machin, et d'un autre aussi, vous savez que ça. Vous connaissez. Quand on mange du poisson. Bon, donc, le chemin du possible, ça, c'était une. Est-ce qu'on peut aller ailleurs et autrement? Des étudiants avec qui nous avions travaillé sur une région de la Creuse avaient fait ce sous-titre, un paysage de désendettement. Alors pourquoi? C'est que l'industrialisation a amené les paysans à devenir des exploitants agricoles, mais aussi avec une mécanique extrêmement pernicieuse qui les oblige à s'endetter pour acquérir des machines fantastiques, des tonnes de produits. Et effectivement, ils ont des résultats. Il faut d'abord rembourser les emprunts. Ils ne les remboursent que s'ils ont les primes de la PAC, qui finalement leur permettent de survivre, mais à la condition qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire pour avoir les primes. Ils sont desservés. Ils n'ont plus la possibilité de penser pour avoir une action sur leur propre terrain. C'est juste monstrueux, inhumain en fait. S'ils se suicident tellement, c'est pas uniquement parce qu'ils ne peuvent pas se désendetter, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Quoi. Donc ils avaient étudié une région, et là-dessus ils en étaient arrivés à des orientations paysagères en même temps qu'avec un principe. Et un principe où on voit que finalement, la polyactivité, l'abandon de l'exploitation industrielle, ce n'était pas des très jolis dessins hein, qu'ils avaient fait là sur cette question. Simplement, je l'aimais parce que c'était un point de comparaison. On voit que sur la proposition qu'ils font, on fait plusieurs choses et pas une seule. Vous savez, c'est le vieux proverbe, c'est l'un des seuls, je crois, que j'aime bien, qui dit qu'on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Ça arrive tout le temps. Vous avez une pyrale du buis qui dévore tout le buis, ben, il n'y a plus de buis, quoi. Parce que quand le jardin est dessiné qu'avec du buis, c'est foutu. Et, parce qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. Bref. Donc, peut-on arriver vers quelque chose qui est à la fois gratuit, qui est riche, qui a une éventuelle riche dans le sens d'une diversité? C'est possible. On peut aussi utiliser le génie naturel, des choses qu'on connaît très très mal. Alors ce projet-là, qui est minuscule, fait allusion à référence à la loi d'orientation agricole de 2006, qui interdisait les PMPP. Bien silence. PMPP, ce sont les produits naturels peu préoccupants. Et en fait, il s'agit juste de ce que vous pouvez faire vous-même et gratuitement, justement. Vous pouvez faire plein de choses, hein, y compris des médicaments pour vous. Mais pour le jardin, en ce qui nous concerne, on a toujours fait des purins d'ortie, de crêpes, de consoude. C'est très facile, 10 litres d'eau, 1 kg d'ortie. Faites macérer, je vous donne la recette, hein, je vais peut-être aller en prison, mais bon. Et puis, ça fermente au bout de quelques temps. Là, quand ça commence à sentir vraiment mauvais, vous arrêtez, vous stockez, vous arrosez, vous pulvérisez sur les plantes, ça va renforcer leur immunité. Pour un jardin potager, c'est très très utile. Donc, suite à cette loi, on n'a pas supporté ça, de dire on n'a plus le droit d'utiliser des orties, donc ça ne va pas. Quoi. Et j'ai fait un jardin d'orties. Alors c'est à Mel, vous avez le bassin Laurent qui récupérait l'eau de ce bassin, signer un pont, c'est pas habituel, mais enfin, c'était pour arriver à cette plateforme. Comme vous le voyez, on est dans les orties. C'est très rare de n'avoir que des orties. Mais on a taillé un peu, parce que c'est un jardin public. Hein. Donc, il ne faut pas qu'ils se piquent, les gens, pour aller voir la plateforme, en passant par le pont, et tomber sur le filtre, qui n'a pas besoin de se poursuivre, bien sûr. Mais on fait la démonstration du filtrage, et le vendredi, on donne ça, le jour du marché, aux gens qui viennent, et c'est gratuit, dans des petites bouteilles. Hein. On a rajouté des orties venant d'autres pays du monde, pour parler de l'usage de ce que l'on peut trouver dans cette nature, on peut partout, hein, partout de plantes qu'on peut utiliser, bien sûr. C'est un accès vraiment à la gratuité, mais là aussi il faut passer un peu de temps, c'est juste surtout apprendre. Mais on reste, cela dit, extrêmement ignorant de toutes sortes de choses qui se passent, ça on est sûr qu'elles se passent, mais on ne sait pas bien comment, entre les plantes, au niveau du sol, sous la terre, dans l'air, partout. Ce sont des modes de communication, les végétaux, même les animaux sans doute aussi, ils ont inventé Internet bien avant nous, ils se communiquent entre eux de loin. Il y a vraiment un énorme réseau. Si le sol est vivant, s'il est resté vivant, si on l'a tué parce qu'on a mis toutes sortes de produits qui sont des intrants en multitude, là il peut rien, d'accord. Mais sinon, non. Ce que l'on ne sait pas, c'est très bien comment s'en servir. Vous voyez, par exemple, là, c'est une piloselle, cette plante-là, c'est une piloselle-là qui se désherbe. Vous la voyez, qui éloigne les graminées. Mais nous, on ne nous a jamais appris ça. Hein. On avait appris, évidemment, à tuer. Hein. On nous a appris pratiquement que ça. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'on avait des cours de botanique très intéressants, entomologie, tout. Sauf qu'au moment où on passait à la phase, comment vous faites pour l'entretien du jardin, des espaces publics, tout ça, là, ça se gâtait. C'est là. On vous dit, vous gardez l'arbre, vous gardez cette rose, je ne vois pas, vous faites tout, hein, tout ce que vous voulez, mais ça veut dire quoi? Quand on sait ce que c'est qu'un écosystème, et qu'on comprend que tout élément dans l'écosystème dépend de tous les autres, en fait. On ne peut pas faire ça. Enfin, c'est chez moi, et je l'ai laissé se développer. Ça, ce n'est pas chez moi, c'est en Afrique. Vous connaissez l'histoire, c'est célèbre quand même, c'est l'impala qui arrive, qui broute un peu le feuillage de l'acacia, qui en a marre, qui s'en va, sauf qu'au moment où il a fait ça, il a envoyé un gaz éthylène qui prenait tous les autres arbres autour. Donc là, il n'a pas intérêt, l'animal à aller vers l'arbre, ça, il meurt. C'est très très au point quand même. Ça, c'est très mystérieux aussi. C'est deux arbres, le Savannah Savannah, sont des arbres d'Amérique du Sud, tropicaux. La photo, je l'avais prise en Australie, parce que au milieu d'une route, je vois ça. C'était très très beau, les petits feuillages, vous voyez bien, ça fait des sortes de petits nuages comme ça, de feuillages qui ne se touchent pas, les branches ne viennent pas se toucher l'une l'autre. Et les scientifiques qui étudient ces choses-là depuis longtemps, comme ça, une fissure de timidité. Les arbres sont timides, il y a des îlots de branches aussi qui sont comme ça, il y a des lumières partout. Et ça veut dire qu'il y a une communication, hein. Sauf qu'on ne sait pas très bien si ça passe par le feuillage ou les racines, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Voilà. On en est là. Vous vous rendez compte du niveau dans lequel on est aujourd'hui d'ignorance. Il y a du boulot hein, pour arriver à savoir avec qui on vit et comment on pourrait avancer, vivre mieux, plus en dialogue qu'en systématique combat. Pourrait-on élargir ce dialogue, évidemment, aux plantes et aux animaux aussi, tout étant complètement lié, dans des buts assez variables. Vous voyez ces chèvres-là, qui ont été pointés au du doigt en disant non, non, elles mangent des araignées, des fruits de l'argan, oui, c'est pas bien, on ne pourra pas faire l'huile d'argan et tout, et, parce que c'est une source économique importante, alors c'est pas du tout vrai. Bien sûr qu'elles mangent les fruits de l'araignée, sauf qu'elles contribuent à la levée de dormance des graines, sans lesquelles, sans cette activité-là, il n'y aurait pas la multiplicité, la multiplication de l'espèce. Alors c'est assez connu comme phénomène aujourd'hui, mais pendant longtemps on a ignoré ça. Vous voyez, une merise, une petite cerise, les oiseaux légers, ils la mangent. Ils mangent la pulpe, hein. Ils ne mangent pas le noyau. Le noyau, il est rejeté. C'est parce que le noyau, qui est la graine, c'est ça la graine, est passé dans le tube digestif, il y a eu une étape de l'acide gastrique, des acides corporelles qui font que la graine va lever sa dormance à 15 jours après. Si ce n'est pas passé par un animal, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est fait pareil avec le chêne. Bon, cela dit, il y a des pièges le long d'une route un peu touristique, vous arrêtez, vous les voyez, les chèvres elles sont un petit peu attachées parce que là, après, vous avez quelqu'un qui arrive, qui vous parle, vous explique et bien il faut lui donner un peu d'argent. Mais elles sont montées toutes seules, elles ne sont pas arrivées. Et l'histoire du dindon et du dodo, c'était pour expliquer quelque chose qui est une rencontre entre des êtres qui sont d'origine très différente. Le dodo est l'île Maurice, le dindon il est américain. Ça vient de cette idée de la biologiste de l'île Maurice qui voyait que dans la coque, un arbre dont la graine est comme ça, hein, très grosse, ne se reproduisait absolument pas, et alors qu'il y en avait partout des graines, des fruits et des graines. Donc il a fini par faire venir un dindon, c'est-à-dire un oiseau qui a deux oranges assez gros, un petit peu comme le dodo. Et ça a marché, et il a sauvé l'arbre, qui disparaissait. Sinon, c'était dû à la disparition du dindon, du dodo, pardon. C'est pas vers 1920, par là. Et d'autre côté positif de la rencontre entre les espèces, il paraît que ce sarracinia, cette plante-là qui pousse aujourd'hui, c'est nouveau hein, depuis quelques années seulement, mais quelques décennies, en Europe, dans les zones marécageuses, c'est tout bien surtout, il attire le frelon asiatique, mais uniquement le frelon asiatique, pas le nôtre. C'est bizarre. Hein. C'est au jardin botanique de Nantes qu'ils ont vu ça. Une plante américaine, le sarracinia est américain, vient réguler la population d'un insecte asiatique en Europe. C'est ces mécaniques-là, qui sont celles du brassage planétaire, qui sont un peu accélérées par nous, bien sûr, beaucoup, elles existent depuis toujours, certainement, et aboutissent à ce qu'on appelle des écosystèmes émergents. Comment pouvons-nous nous en accommoder, d'autant plus que nous sommes dans une période de changement climatique. Il va sans doute falloir se faire à l'idée qu'il y a plus d'insectes, d'oiseaux, d'animaux et de plantes que nous ne connaissons pas, qui vont arriver et d'autres qui vont disparaître. Alors mon expérience personnelle s'est située sur le bord de la Creuse de Nulac, créée en 1900 pour faire un barrage. Alors, ce que vous voyez sur le plateau, c'est le résultat d'une ouverture qui déjà est résultat d'un remembrement très important que, quand j'étais enfant, n'existait pas. Il y avait un morcellement énorme et, contrairement à ce qu'on voit sur cette image, les pentes n'étaient pas boisées. C'est en 40-50 ans que tout s'est boisé parce que là, les machines que j'évoquais tout à l'heure n'y vont plus. Donc les humains qui allaient à pied, avec des vaches, avec des moutons, n'y vont plus. Donc vous avez un boisement énorme. Aujourd'hui, la base boisée est supérieure à, bien supérieure à la biomasse voisée à ce que l'on avait il y a une centaine d'années. Heureusement qu'elle existe, parce qu'on serait encore plus en souffrance s'il n'y avait pas tout ça. Donc moi j'ai construit ma maison, pierre par pierre, donc j'ai habité une tente de l'armée pendant ce temps-là. La pierre était sur le terrain, c'était un sol très pauvre, mais les pierres étaient là. Comme je voulais faire un jardin, donc il me fallait un terrain, puis j'ai trouvé celui-là, il me plaisait bien parce qu'il y a un petit ruisseau, parce qu'il y a accès au lac, parce que c'était dans la forêt en friche, enfin c'était pas mal, sauf qu'il n'y avait pas de maison. Ça m'embêtait, mais en même temps, je me dis, tant pis, hein, s'il n'y a pas de maison, je construis une maison. Bon. J'ai essayé de faire ça, mais voilà, d'ailleurs, dans cette espèce de creux, vous voyez le plateau par-dessus, le vallon, etc. Bon, là, j'ai eu un peu de difficulté pour arriver à ça, parce qu'on a empêché. Vous êtes des étudiants, hein, donc vous allez avoir des projets. Il faut commencer par oublier toutes les règles. Et si vous voulez faire quelque chose, désobéir. Parce que sinon, ça ne marche pas. Il faut accéder aux rêves par une réalisation qui peut être contesté, il ne s'agit pas de mettre des bombes, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'il y a une pression de la réglementation qui empêche parfois la simple possibilité de vie. Bon, là, c'était juste pour habiter. Mais il fallait l'eau de la ville, 24 mètres, et l'EDF. L'eau de la ville, il y avait une source, on dit, ah ben ça va. 24 mètres, c'est pas grave, bon. Et puis, EDF, j'ai demandé, est-ce que vous voulez venir? est-ce que vous pouvez venir? C'était déjà un peu compliqué pour moi, il n'y avait pas d'argent à l'époque. Donc, ils ont dit, non, il vous faut votre numéro de permis pour venir. J'avais fait le dessin pour tout, j'avais fait tout en mémoire, les règles. Hein. Alors, c'est pas possible. Bon, on me demande que vous veniez, j'ai besoin de vous. Là. Discussion de sourds. Ça a duré pas longtemps, au bout de 2-3 mois, j'en pouvais plus, j'ai construit. Évidemment. Bon, après 2 ans, j'ai vu les gendarmes sont arrivés et tout. Puis, je leur ai dit, oui, le permis est en cours. Enfin, la maison était construite. Hein. La moitié de la maison. La partie droite a été faite après. Bon, ce que vous voyez, si je vous montre ça, c'est simplement parce que on est dans du bricolage, mais c'est du bricolage possible. Moi, je peux les pierres que vous avez, toutes celles qui sont taillées, c'est que je les ai récupérées parce qu'à l'époque, les gens les jetaient pour faire tout en parpaing. Vous voyez. Donc, on pouvait récupérer sur les bords de la route ou partout des pierres. Là, vous avez une image du bambou que j'aime beaucoup, hein. Sauf qu'il finissait par me défaire la maison. Il allait bientôt démonter la maison. Alors, non, ça ne va pas, j'ai dû l'enlever petit à petit, c'est devenu de dingue. Hein. Parce que j'ai pas mis de produit, bon. J'avais fait le toit avec des bardeaux de châtaignier. Il y a un fournisseur à peu près unique en France, des bardeaux de châtaignier, assez petit, qui est situé à une trentaine de kilomètres, et qui a duré 30 ans. Alors, je vous dis ça pour ceux qui sont dans la construction, qui ont envie de bricoler comme je fais. Et là, c'était en 2006, j'ai fait refaire, cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, parce qu'il y avait 10 000 bardeaux, 20 000 bardeaux, je vous dis pas le nombre de coups de marteau, j'en pouvais plus, mais j'ai fait ça. Et ça, cette fois-ci, c'est du robinier. Alors, robinier pseudo-acacia. Un arbre qui vient d'Amérique. Est-ce qu'il a le droit d'être là? C'est une plante envahissante. Il résiste mieux que châtaignier, quoi. On peut en faire des piquets de vignes, c'est comme ça qu'ils sont multipliés au départ, dans le Bordelais surtout. Mais enfin, on en fait plein d'autres choses. Et si j'ai dû changer au départ, c'est parce que moi, j'avais mal fait. J'avais fendu les bardeaux, simplement parce que je n'avais pas fait les pré-trous. Et je n'ai pas de machine pour ça. C'est des toitures qui peuvent durer extrêmement, extrêmement longtemps. Alors, cette image-là, c'est juste un pilier. J'appelle ça le bougeoir, parce qu'on met des bougies dedans, si on veut. C'est pour supporter un escalier. Bon, et c'est pas moi qui avais fait la ferraille, mais je ne sais pas faire ça. Par contre, la pierre, oui, parce que ça, c'est très facile à faire, on peut le faire. Et c'est l'eau, les plus grosses masses, c'est du granit, les petites, c'est du schiste. Et ça, c'est ramassé sur le bord de la Creuse. On peut aller chercher à certains endroits des choses qu'on ne trouve pas autrement, qui sont des pierres qui sont faciles d'accès. Et voilà, elles sont très très plates, et ça permet de boucher des trous. Ça fait moins de béton. Et l'escalier, je vous le montre à l'intérieur, parce que là, c'est pareil. Moi, je ne sais pas faire le bois. Donc, j'avais demandé à l'menuisier s'il voulait bien faire l'escalier. Il m'a dit, je ne peux pas, parce que là, vous avez une fenêtre, on a une fenêtre, j'ai dit, oui. Puis en plus, là, on dit, tourne, j'ai dit, oui. Non. Et finalement, je l'ai fait. Parce que je suis allé chercher un arbre, un châtaignier, enfin, c'était avec un quai d'œufs, avec un ami, qui lui a construit sa maison après, plus tard, et on regardait comme ça, puis on est tombé par terre. Parce qu'on a buté dans une branche qui est celle-là, qui était déjà tombée, qui nous attendait, quoi, en gros. Et après, il suffisait juste, vous savez, c'est 2H plus G égale, vous savez ça, 30 ou je connais, c'est 45, enfin, vous faites attendre. Vous avez deux fois la hauteur plus le giron qui vous donne, vous le calculez, vous faites une fente dans le bois et c'est bon. Vous avez trouvé la bonne branche qui tournait, c'est tout. Et par les tomates, je les ai volées. Ben oui, parce que on est dans le recyclage, l'économie de la non-dépense, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'ils jettent tout? Qu'ils abandonnent, il y a des trucs partout, hein? Vous vous rendez compte de tout ce qu'on jette, quoi. Et là, il y en avait qui se défaisaient de leur tomette. Non, mais c'est magnifique, une tomette. C'est quelque chose qui a une belle couleur, une sonorité. J'ai pas voulu les vernir comme on fait quelquefois, ça ne veut rien dire. C'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut... Et puis, j'ai longtemps eu une fosse sceptique. C'est la première fois que je raconte tout ça. Hein. Bon. Et puis j'ai abandonné parce que à cause des antibiotiques, hein, j'y ai jamais plus. Il y a beaucoup de gens qui passent sur moi et on ne s'est pas demandé aux gens, vous vous êtes aux Antilles ou pas, on va faire ça, c'est pas gentil. Donc, au bout d'un moment, ça va. Puis ça m'arrangeait de passer à autre chose, donc là, vous avez une des deux toilettes sèches, ça s'appelle le château, château de toilette. Et l'autre, je n'ai pas sa photo, ça s'appelle les TSP. C'est les toilettes sèches de proximité. Ça, c'est l'usine électrique, sur le toit, qui a servi jusque l'année dernière. Donc elle n'a pas servi très très longtemps, 14 ans. Après. Elle sert toujours d'ailleurs, mais uniquement pour le 12 volts. Et j'ai mis une installation un peu plus récente. C'était extrêmement compliqué, on est en retard en France de ce point de vue-là, pour les maisons individuelles, vous voyez. Et là, c'est dans un champ, c'est très très bien exposé, la transformation se fait immédiatement. On part en 220 et ça part dans la tranchée jusqu'à la maison. Voilà, le jardin, lui, alors pour le coup, il est sans arrêt en mouvement parce qu'il prend en compte la dimension énergétique de tout, y compris du déplacement physique sur le terrain par les plantes qui bougent et du respect de ça par le jardinier. C'est ça le jardinage. Aujourd'hui, ça repose des problèmes, cette question-là, parce qu'elle est enfin prise en compte. C'est pendant des années, j'ai parlé dans le vide, mais maintenant, étant donné qu'on est dans l'obligation de préserver la diversité mobile des espèces de plantes qui sont des vagabondes, elle est une réalité importante. Donc, on reprend un peu d'intérêt à quelque chose qui est une gestion préservant la diversité, c'est-à-dire le vivant en préséance devant le dessin, devant l'architecture, devant même la résolution esthétique qu'on doit faire quand même en tant que jardinier. Et ça suppose quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on ne fait pas un dessin en amont sur une table en disant voilà le projet et voilà on l'exécute. Ça ne marche plus comme ça. On fait quelque chose sur le terrain avec ce qui existe déjà ou ce que l'on ajoute et qu'on rapporte. On peut aussi partir d'une page blanche, mais on travaille avec le vivant. Ça n'a plus rien à voir. Et le dessin, on fait après. Voilà, ça c'est la grande berge de Coclas qui est très très mal vue. Vous savez, il y a des photos sensibilisantes, soi-disant envahissantes, enfin bon, je sais très bien, la jardine, elle attire beaucoup d'insectes. Les accidents comme l'arbre qui tombe, ça c'est un pommier qui s'est bouché. Finalement, ça m'a amené à tomber autrement. Ça fait un arbre qui aujourd'hui a un angle droit. Dans le jardinage d'aujourd'hui, il y a une dépense que j'appelle de l'énergie contraire, qui est folle, qui est énorme. On a des machines, justement, des souffleuses, qui servent à rien. Si, ça ne gêne personne, ça n'est pas dangereux, pourquoi on ne garderait pas l'arbre qui est couché, après tout? Parce qu'il est toujours vivant. Ce que j'appelle le jardinage par soustraction. Un arbre est tombé, qui était un chêne par là, il a soulevé tout. Et puis, j'étais pris de court, c'était en hiver, c'était la tempête 99-2000. En avril, je vois plein de semis, plein. C'est magnifique, hein. Je me dis, mais comment je fais là? Je reconnais les plantes quand elles sont petites. Heureusement. Donc, je choisis d'enlever les plantes qui peuvent gêner celles que je veux garder. Mais moi, j'ai rien mis. Rien. C'est pas du tout la même chose que le désherbage. On enlève tout ce qu'on n'a pas mis. Rien à voir. Là, je n'ai rien mis. Donc, c'est des animaux qui ont transporté ces graines, évidemment. Alors, tout le jardinage se fait comme ça, supposant simplement qu'il faut reconnaître les espèces. Donc, le temps ou l'énergie, je ne sais pas s'il s'agit de l'argent, mais en tout cas, il est dépensé, tout ça, pour l'accroissement de la connaissance et de la pratique, mais pas pour des usages de ce que j'appelle la dépense de l'énergie contraire. Ça, c'est l'esprit de ce jardin. Et le dessin va en faire plein. Et celui-là, je l'avais fait pour faire plaisir à quelqu'un qui voulait voir ce que ça pouvait donner en forme, mais ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, évidemment, ça change tout le temps. Peut-on ne rien faire? Alors là, on n'est plus dans l'économie de la dépense, on est dans quelque chose de plus puissant que ça, qui est le fait, dans notre métier, d'être utile à tous, même si on ne fait rien. Dans ce métier-là, hein, pas tous les métiers. Si vous ne faites rien, vous faites une forêt. Sauf si vous êtes dans le Sahel, d'accord, sur l'Himalaya. Mais sinon, vous faites forcément une forêt. En très peu de temps, hein, en 14 ans, vous avez un massif forêt, une pré-forêt, et en 40, une vraie forêt. Vous faites de l'oxygène, dans ce cas-là. Ça, c'est utile à tous, on le partage et on en a besoin, c'est comme l'eau, on ne peut pas vivre sans ça. Là, on est sur une carrière, la carrière de Misery qui est à Nantes, avec quelque chose qui est un cadeau, quoi. Ça a été entièrement fabriqué, tous ces arbres-là, fabriqués par la nature. Et moi, on m'avait posé des questions, qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'il y avait le projet de faire une barre de logement, enfin, des immeubles et tout. Je dis, quand même, c'est dommage, quoi, on est dans la tête du parcours de la biodiversité à Nantes, qui a un cadeau, il est tout fait, le jardin est tout fait. Il y a des petites bricoles à réajuster, c'est tout. Et vous voyez, vous avez le sol, enfin bon, il suffit d'améliorer un peu. C'est la question de la résolution esthétique, mais le jardin, il est là. Enfin, là, il faut enlever ça. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un silo de voiture, et puis le bâtiment, il s'appelle le Cap 44, et je dis, ben, dans ma proposition, on enlève, quoi. Et en plus, il est plus inutilisé, bon. On dit, non, 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 il est sacré, hein, parce que c'est NBIC qui a fait le premier, le béton armé, là, un des exemples. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? C'est pas grave, on va garder un petit bout. Et le voilà, vous avez bien résolu là, vous avez fait un petit bout. Le jardin est tout fait, avec quelques sentiers qu'on a. Et on fait une grande esplanade qui va jusqu'à la Loire, et qui s'appelle l'esplanade NBIC, hein, évidemment. Alors, ça ne s'est pas résolu exactement comme ça, mais l'immeuble n'est pas construit. L'économie de la non-dépense dans un mode de gestion qui recycle, c'est la gestion du jardin de l'ENS. On est à Lyon, une prairie centrale comme ça pour faire pour rassurer, on dit. On sait la main, tout le monde est bien. Il y a deux prairies qui elles sont fauchées. Là, ce n'est pas habituel. Et il y a toute une gestion de jardin, disons, en mouvement sur les côtés. On fait donc les foins à Lyon, on les offre aux moutons qui, eux, sont très autonomes parce qu'ils ont été élevés pendant très longtemps, ils sont venus assez loin dans le nord de l'Angleterre. Il leur faut à peu près 4-5 moutons pour cette surface, il y a 8 hectares. C'est une gestion libre avec l'accueil des vagabonds et c'est pour un millier d'étudiants. C'est un campus. Hein. Bon, c'est un exemple, mais avec le BRF, c'est-à-dire le broyeur aréal fragmenté, qui sont des choses qu'on obtient avec les branches qu'on prend quand on a besoin de faire ça. Avec le compost, il y a un endroit, il y a un potager où on fait du compost. Avec les paillis, le feuillage normal, et avec les moutons, on n'exporte plus rien. On est comme l'image de l'arbre qui se recycle. Tout est recyclé, tout que des matières organiques, végétales. Bien sûr, c'est facile de faire ce recyclage, mais quand même, il y a plein de parcs et de jardins où on ne le fait pas. Et où on remplit des tonnes de camions pour aller les jeter à la décharge, alors que c'est du trésor. Donc voilà, ça c'est l'exemple du jardin de Lyon. L'enseignement il est fait au lycée Chevalier-Fell et d'autres lycées. Là, les étudiants doivent faire la reconnaissance de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit entomologique. Ils font les tracés comme ils en ont envie. Ils donnent des noms aux arbres, ça c'est un vieux sureau, le nom dinosaure, ils s'amusent. Ils font avec, c'est-à-dire qu'ils sont, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est intéressant. Du coup, ce n'est pas une recherche, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais on a tout. Toutes les plantes, toutes les strates, des insectes, des oiseaux, il y a tout ce qu'il faut. C'est aujourd'hui, y compris dans le chaos, qui est une espèce d'endroit très caillouteux, où il y a des épineux, des ulex que tout le monde déteste, ils ont fini par faire une sculpture, qui est un clou du parcours, parce que c'est ouvert au public, et il y a les télévisions qui viennent prendre ça, c'est rigolo, quoi. Parce qu'au début, quand ils ont commencé à travailler, c'était mal vu. Hein. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. On prolonge ça dans plein d'autres endroits, et là, on a travaillé à Stolac, en Bosnie-Herzégovine, avec des étudiants à la fois de France et de Bosnie. Et c'est finalement, et ça, je ne m'y attendais pas du tout, quelque chose, parce que la question qui nous était posée, c'est est-ce qu'on peut remettre en discussion, en contact, des populations qui ne se parlent plus. Et c'était 15 ans à peu près après la guerre qu'on a commencé à travailler là-bas. Et moi, je ne savais pas comment faire, mais quand on a commencé avec Coloco, le groupe avec qui je travaille, Miguel Georgiev, à faire du mobilier, tout à coup, parce qu'au début, ils ne voyaient pas trop ce qu'on faisait. On a pris des squats, hein, on a travaillé sur le terrain, on ne savait pas qui c'était. Hein. On a vu les habitants arriver et parler avec nous, et finalement se réinstaller. Après, une petite scénographie pour nettoyer la cascade, accéder au... etc. Mais quand il y avait les premiers sièges, c'est bizarre. Hein. Il dit oui, moi je venais effectivement, c'était un point de vue, etc. Et qu'on retrouvait quelque chose qu'ils avaient vécu eux. Alors j'ai fini par l'eau. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je trouvais assez incroyable qu'on me dise que l'eau vient du continent. Mais avant ça, en 2009, j'avais fait l'ascension du mont Diablé-de-Jean. Octobre 2009, 2 mois et demi après la sécheresse, une sécheresse extrêmement sévère, je monte, et puis j'arrive à un endroit où il y a une petite goutte d'eau qui tombe, tout comme ça. C'est pas possible, c'est bizarre, je m'en vais, je reviens, je reste toujours pareil. Est-ce qu'un touriste a oublié sa gourde? Non, pas du tout. Et j'interprète le mont Diablé-de-Jean comme une tour à eau, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de capturer l'humidité de l'air pendant la nuit. Il n'a pas plus de 3 nuits, c'est quand même énorme. C'est de la phonolite, l'eau glisse bien dessus, c'est une cheminée volcanique, le volcan lui il a disparu. Donc j'en parle au parc de Mont-d'Arlès qui est intéressé et qui dit oui, ça nous intéresse, ils ont fait des recherches, ils me disent on vous commande une tour en haut, là j'étais embêté. Je ne sais pas faire ça. J'ai dessiné quelque chose, je suis allé voir l'ingénieur en question qui m'a dit ce ne sera pas rentable. Mais ça peut marcher, il m'a dit ça peut marcher. Il m'a dit si ça peut marcher, on le fait. Parce qu'on avait les pierres, hein, justement. La phonolite était là, il y en avait partout. On a trié les bonnes. J'ai juste fait ça, vous imaginez des dessins absolument pas techniques, juste des indications. Et le groupe qui a commencé à travailler, ils sont incroyables. Ils ont choisi chacune des pierres à chaque fois, fait le trou avec la vasque. Et ça a fini comme ça. Et c'était en juin, juillet, par là. Et un mois après, la vasque était pleine d'eau, il n'avait pas plu. Et depuis, ça continue de fonctionner, mais bon, il n'y aura plus. De toute façon, on est sur la ligne du partage des eaux, vous imaginez. Il y a un côté, ça s'en va vers... justement, je fais des trop-pleins vers la Méditerranée, un autre vers l'Atlantique, ça m'amusait. Je me dis, bon, il faut faire la carte de France, la Loire, elle va aller de côté. Désolé. Mais eux, ils ont travaillé comme ça, d'une manière absolument fantastique. Ça a pris seulement un mois. Ça, c'est le terrain qui s'appelle la Chaumasse, c'est tout près du mont Diablé-de-Jean. Et voilà l'équipe. On peut même se monter dessus. C'est la dernière image pour parler de ce sujet un peu particulier qui est l'économie de la non-dépense dans une société où on n'arrête pas de dire qu'il faut dépenser. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller dans une autre direction? Merci. La permaculture, c'est une sorte de philosophie où on mélange aussi toutes les espèces. On n'est pas obligé de faire une sélection, monter une monoculture. Ça, c'est l'ensemble, disons, un peu heureux, vision de l'ouverture de l'esprit, de l'accueil d'une diversité dans le jardin. Maintenant, la permaculture d'un point de vue technique, c'est vraiment qu'il y a une assistance d'une plante vers l'autre. Vous savez, c'est le poireau et la fraise. C'est-à-dire que si vous mettez deux plantes qui sont en synergie positive, vous avez plus de poireaux et plus de fraises. Alors malheureusement, ces listes sont mal connues. Puis il y a celles qui, des plantes qui ne s'aiment pas. Mais il y a quelque chose d'encore beaucoup plus fort, et dont on parle extrêmement peu, souvent, dans la permaculture, c'est le fait qu'on enfouit dans quelque chose qui peut être une butte ou peu importe, une lasagne surélevée, ça n'a pas d'importance. Une matière organique qui est en cours de décomposition, comme par exemple du bois mort, qui a déjà des éléments décomposés, et qui, avec l'eau, donc avec l'humidité, va se décomposer petit à petit en matière minérale. Et là, vous avez la nourriture. Et ça arrive tout petit à petit, exactement au rythme de leur demande. Quand vous mettez un engrais, vous avez une surdose obligatoire. Non, vous avez avec la permaculture un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est pris, c'est magnifique. Là, pour le coup, c'est très intelligent. Ce que vous prenez en compte dans la conception du projet, ça peut très bien être quelque chose qui est en rapport avec un environnement très lointain, même si vous n'intervenez pas là-dessus. Mais vous pouvez avoir une tonalité, une matière, un rapport à la perspective, des choses qui font que votre jardin va être composé par rapport à un lointain. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, sur le terrain lui-même, il y a, si par hasard vous avez la chance d'avoir un terrain qui a une diversité vivante, alors là, pour le coup, il faut faire très attention, il faut commencer par attendre pendant un an, quelquefois, enfin, pendant des mois, pour voir comment ça se comporte et choisir ce qu'on va enlever. Parce que, quelquefois, il faut enlever pour avoir justement de la lumière, pour laisser la place à d'autres, ce que j'appelais le jardinage par soustraction. Sinon, ça peut aussi être une page plutôt blanche, où là, on rajoute, on laisse venir à certains endroits, ça c'est très important. Puis avoir, par exemple, une épaisseur vivant dans lequel on ne fait rien et ça va pousser, vous aurez un écosystème là-dedans qui accueillera les auxiliaires du jardinier. Il y a ce que vous plantez, vous, qui peuvent se mélanger là-dedans. Il y a beaucoup d'insectes qui nous aident, les cicadelles, la larve de cicadelle, vous voyez ce que c'est, les crachats de coucou. C'est des trucs qui reviennent dans les crachats, c'est pas très joli. On voit dans les arbres, parfois là-dedans, vous avez des larves de cicadelles qui vont venir manger les pucerons avant même que les coccinelles s'en chargent. Donc c'est parce que c'est bien plus précoce. Ben, si vous arrachez ça parce que c'est pas joli, etc., parce que vous n'avez pas reconnu que c'était un nid d'animaux précieux, c'est embêtant. C'est complètement différent de ce qu'on faisait autrefois. Donc ça ne donne pas la forme hein, pour autant. C'est vous l'affaire, c'est vous l'artiste. Alors non, c'est pas vrai. C'est vous pour partie. C'est le partage de la signature. Vous avez quelque chose qui existe, que vous mettez en route, le monde vivant, végétal notamment. Ça va fabriquer quelque chose, ça va se développer dans le temps. Vous êtes l'auteur au début. Donc le co-signataire. Deuxième signature, toutes les espèces du vivant. Troisième, un éventuel intervenant qui est jardinier, pourvu que ce ne soit pas un technicien de surface.
Ça me fait rire. Et c'est une question qui revient tout le temps.
Une question qui est normale, c'est normal. Ça. Alors, ben parce que, d'abord, si vous êtes dans un jardin qui est relativement modeste, vous pouvez choisir sans faire de dégâts, c'est-à-dire sans utiliser la chimie, que vous allez enlever une plante à la main, ça peut prendre longtemps. Mais vous pouvez aussi faire autre chose, c'est-à-dire dire, je l'accueille et elle est en équilibre, elle va se mettre en équilibre avec toutes les autres espèces. Ça prend un peu de temps. Alors je vous explique comment je jardine d'un grand du Caucase. Et peut-être vous la connaissez, ne serait-ce que par réputation, elle a une très mauvaise réputation, photosensibilisante, mais expansive, bon. Et ça multiplie, c'est vrai, beaucoup. Alors, je coupe la rampe florale quand les graines commencent à mûrir. Elles ne sont pas encore mûres. Donc elle ne pourra pas se reproduire. Et la plante à ce moment-là, qui est une térophyte, c'est-à-dire une plante à cycle court, et qui n'a que la graine pour se reproduire, elle n'a absolument aucun appareil végétatif comme un plant vivace ou un arbre. Et c'est la graine ou rien. Je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, elle se fatigue. Et là, au bout de 10 ans, j'ai arrêté et je la laisse se reproduire depuis maintenant 5-6 ans. En général, on a l'arrivée d'une plante qui n'était pas là avant, ou d'un animal, c'est la même chose avec les animaux. Il n'y a pas de régulateur de croissance de la plante ou de l'animal parce qu'elle vient d'arriver. Le régulateur de croissance qui existe dans leur pays d'origine. Pays d'origine, ça c'est une façon de voir. Depuis combien de temps? On ne sait pas non plus. Donc ce mécanisme-là qui est celui du brassage planétaire, il n'a jamais cessé. Nous ne faisons que nous que l'accélérer. Donc on est aussi avec le fait de changer de climat de sol et tout ça, dans une situation de favoriser des accueils à des espèces qui sont mieux là et d'autres vont partir parce qu'elles y sont moins bien. Ça, c'est quelque chose qui accélère. Mais d'une manière générale, il y a la mise en place d'un écosystème émergent. Ce qui est dramatique, c'est quand on tue tout, quand on va mettre surtout la chimie, c'est ce qui est pire. Pour tuer quelques plantes et quelques machins, et tout y passe. Et une fois, c'est quand même, une fois, j'ai utilisé du glyphosate. Une fois. C'était pour du liseron. J'ai mis dans une poche en plastique, il n'y avait pas de vent. Hein. J'ai tout roulé comme ça dans une échelle. J'ai attendu le liseron, il est mort. Mais tout autour est mort. Et j'avais mis des doses hein, minuscules. Hein. Parce que par les racines, il est allé toucher, il y a les diphylum, les machins, les trucs, j'en ai. C'était. Voilà. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Pour moi, ce sont des modèles expérimentaux d'accès à un futur possible. Il n'y a pas de possibilité de répliquer systématiquement en disant voilà comment il faut faire. Et là-bas, vous pouvez faire pareil, ici, là, non, parce que tout change, le climat, la manière de voir. Il y a aussi la diversité culturelle. Bon, on ne va pas aborder cette question, mais tout le monde n'est pas obligé de voir les choses de la même façon. Bon, ce qu'il faut, c'est surtout pas supprimer le vivant. Voilà. Donc je pense que si on va dans cette direction, quelle que soit la manière de s'y prendre, on ne sera pas du tout dans l'économie de la dépense. La dépense aujourd'hui nous amène à avoir un SUV. Si vous êtes SUV, c'est un machin qui sera cher. Hein. Ça consomme, ça produit tout, c'est complètement inutile, complètement. Moi, j'ai une machine, je pense, à laquelle il me semble que on devrait avoir du mal à m'en passer, c'est la machine à laver le linge. Mais c'est tout, hein. Toutes les autres. Moi, je ne sais pas, chez mes parents, il y avait un courant, un couteau électrique. Comme ça. C'est insupportable. Pourquoi ? Parce qu'on est des robots robotisés par la pub, on est sous cette espèce de pression-là. Et ça, c'est pas demain, on ne pourra pas. C'est impossible. On est en surproduction des déchets, on sait qu'il ne faut plus. Vous voyez, la bouteille d'eau, j'en parle, mais ce n'est pas une blague. Hein. Alors, donc ce serait des manières, c'est pas vous voyez, une seule pensée, une seule voix, c'est expérimental pour un lieu, et puis peut-être qu'ailleurs c'est autre chose. Moi j'ai été quand même très touché par l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, j'y suis allé deux fois. À chaque fois j'ai vu quelque chose qui était un ensemble de gens qui ont... Ils disent qu'ils ont pu avec les déchets, hein. C'est pas évident pour faire des habitations, mais ils ont aussi utilisé leur terrain, c'est-à-dire qu'ils ont exploité la diversité sans la détruire. On ne sait pas faire ça. J'ai fait des balades naturalistes deux fois avec eux, j'étais très 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 surpris, c'est intéressant. Si on pouvait accroître un certain niveau de quelque chose de consommation, ce serait dans l'immatériel, ce serait dans la connaissance, l'accroissement de la connaissance. Vous voyez, donc je pense qu'il y a des. Bon, ça c'est mon point de vue, mais il y a des expériences aujourd'hui qui se font un peu partout, où on dit ben non, on n'a peut-être pas besoin de ça. On pourrait faire autrement. Il y a des gens qui le font, ce sont des jeunes. Ça c'est très intéressant. Parce qu'ils ont compris hein, cela. C'est parce que. Je me suis intéressé aux insectes quand j'étais petit. Les insectes ont un monde, c'est un monde à part. Alors, bon, j'en ai élevé du coup. Mais quand on a la chenille, on rentre tout de suite dans l'écosystème sans s'en rendre compte. Alors après, quand je me suis un peu intéressé, j'ai essayé de faire des choses. Mes parents m'ont dit, tiens, tu devrais planter, etc. Alors j'ai planté, j'ai fait toutes sortes de bêtises. Puis ensuite, tout le monde dans le lycée, j'étais mauvais. Et puis il y avait quand même une prof de, ça s'appelait sciences naturelles à l'époque, qui m'avait vu, qui était bon là, c'est tout. Elle m'a dit, il y a un métier qui existe, ça s'appelle paysagiste, il faut faire telle et telle étude. Et là, je suis devenu bon. Parce que je savais où j'allais. Bon, après, j'ai fait des bêtises, pendant un conseil en privé, j'ai tué tout. Voilà. Et c'est seulement quand je suis arrivé chez moi, donc ça date de 77, je me suis dit, parce que je ne pouvais pas prendre les clients pour des cobayes, en disant, je vais faire une expérience chez vous, on va essayer de dialoguer avec la tour, mais tout, non. La seule fois où j'ai eu une discussion avec, là, c'était très décisif d'ailleurs, il était au rez-de-chaussée, il avait ouvert sa fenêtre, il avait son fusil. Il dit, oui, elle arrive à midi, elle arrive à 7h le matin, midi, 5h l'après-midi. Et il a tiré, il était presque midi, il avait raison. Mais je ne pouvais pas jardiner comme ça. Donc, moi, c'est des choses que j'ai dû complètement abandonner. Sauf que c'était très, très difficile de discuter avec des gens avec lesquels on travaille, on est en co-signature. Là. On sait que c'est eux qui vont utiliser l'espace, c'est pas nous, c'est pas des anonymes, comme dans un espace public. On les a avec nous. Donc j'ai arrêté ça. Et après, j'ai fait des espaces publics, mais surtout, j'ai passé par mon jardin. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont contacté, mais peu. J'ai eu un contact avec Gabriel Amar-Lolé, qui, lui, est à la France Insoumise, qui travaille sur ces questions depuis extrêmement longtemps, directeur de la Régénération des Lacs de l'Essonne. C'est lui le premier qui a accepté l'idée de faire une école de jardin planétaire. Récemment, c'est Jeannot, qui, lui, m'a invité. Et je fais partie de la liste pour les européennes, mais de façon à ne pas être élu. Et puis, je crois que c'est un peu tout, quoi, parce que moi, les politiques, chaque fois que je les ai vus, c'est des choses très, très, très bizarres. J'ai rencontré Giscard d'Estaing, à l'époque, il y avait Vulcania. Alors, il y avait une réunion, donc j'arrive, et moi, je rentrais d'un voyage en Afrique du Sud, j'avais un sweatshirt avec des éléphants. Safari. Non. Il ne faut pas tuer les petits. Je dis pas les gros non plus. Ça, c'était la discussion avec lui. Quant à ceux qui me dirigent en ce moment, là, ils sont totalement sûrs d'eux, sur un modèle d'ultralibéralisme qui a fonctionné dans leur vie. Que ce soit dans une banque, dans une n'importe quelle entreprise, ils ne voient que ça. Ils n'ont absolument pas compris où on va. Nous sommes dirigés par des retardateurs. Pour moi, c'est juste impossible de continuer avec un système comme celui-ci. Mais impossible. Sauf que ça se fait. Ça se fait parce que personne ne voit d'autres modèles. Comme s'il n'y en avait pas d'autres. Mais bien sûr que si, forcément, il y en a d'autres. On sait très bien. On sait très bien qu'on peut nourrir la planète avec du bio en perma ou pas. On le sait, ça a été calculé par des gens sérieux qui ne sont pas des imbéciles. On n'est pas obligé de stocker des... Bref, je ne vais pas m'énerver parce que... Vers une polyactivité sans m'en rendre compte au début. Hein. Les premiers livres qui sont écrits, il y a un rôle d'auteur aussi, sont sortis pour la raison de l'enseignement. Donc j'avais une activité aussi d'enseignement, déjà au début. Ça a commencé parce que je ne voulais pas faire des services militaires. Donc on m'en venait envoyé au Nicaragua, c'est la coopération, ça s'appelait. Donc j'ai enseigné là-bas et j'ai découvert ce que ça voulait dire que enseigner. Ça a été très... dans un lycée agricole, j'ai fait ça. C'était un exercice très intéressant. Mais après, quand je suis revenu et que j'ai commencé à travailler, très très vite, on m'a demandé d'enseigner dans un lycée agricole qui se formait avec une nouvelle formation sur le paysage, etc. Donc ça, c'était en plus du métier que je commençais à faire vraiment avec les particuliers, donc là, j'étais à mon compte. Mais je faisais tout, l'entreprise, la conception, l'entreprise, etc. Et on n'était pas payé à la conception. Avec un particulier, faire payer la conception, c'est presque pas possible. Donc, il faut faire payer le chantier, les travaux. Et au début, j'ai fait la bêtise de salariés. Les gens avec qui j'étais, on n'était pas très nombreux, mais dans la commande publique, on est sûr d'être payé. Mais on est payé, on sait pas quand. Et nous, on doit payer les salariés tous les mois. Ben, ça, c'est pas facile. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai dit, est-ce que vous acceptez l'idée qu'on soit tous en freelance et on se partage entre le temps et la tâche. Et j'ai dit oui, et ça s'est fait comme ça pendant des années. Et puis ensuite, j'ai passé la main, c'était vers 2000, à quelqu'un malheureusement qui est décédé très vite, Guillaume Geoffroy-Chou, qui a pris à Caen, c'était mon agence, et moi j'étais entre temps passé en indépendant artiste. Je me suis mis en maison des artistes, qui fait que depuis cette époque-là, 2003 à peu près, je ne suis plus habilité à faire de maîtrise d'œuvre. Je ne touche plus de ma mère sur la maîtrise d'œuvre. Ça, ce sont des gens, je vais en équipe, donc je choisis une équipe, ou une équipe me choisit, enfin, ça dépend, on a plein de gens qui ont travaillé très très bien, qui eux sont structurés pour la maîtrise d'œuvre comme moi je l'étais avant, et moi j'interviens sur la conception et sur le suivi artistique. Voilà. Mais ça ne résout pas un problème qui est commun à nous tous paysagistes, c'est que nous avons un contrat, encore aujourd'hui, qui est copié sur celui des architectes, où on est payé normalement, pour ce qui est d'une agence, hein, à 10% du montant. On ne peut pas dire 8, 7%, enfin un pourcentage du montant des travaux. Comme l'architecte, au moment de la réception du chantier, la maison est finie, l'immeuble est fini. Bon. Pour un paysagiste, le jardin commence. Comment se fait-il qu'il n'ait pas une mission? Et alors, pour arriver à gagner leur vie, on est obligé de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le vivant. Les plantes, c'est pas cher. Les graines, encore moins. Mais on ne peut pas travailler avec ça. Donc il faut faire des terrasses, des escaliers, du béton, des pergolas, des éclairages inutiles, de l'arrosage inutile. Ça, ça rapporte. Et ça marche comme ça. C'est triste. C'est catastrophique. Il faut arrêter ça. Et pour pouvoir vivre, il faut juste être payé correctement à la conception. Et ensuite, pendant un temps qui peut être minimum 5 pour un suivi, avec un prorata, hein. C'est pas forcément très cher pour le commanditaire, mais le client. Mais ça permettrait d'assurer le vrai métier dans lequel on est. On n'est pas des architectes. Hein. Le rapport à l'architecture, il dépend tellement des architectes, justement, que j'ai eu des cas très 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 différents. Alors, les architectes sont très très nombreux, contrairement aux paysagistes. Ils sont très divers. J'ai eu l'occasion de travailler avec Jean Nouvel, avec Philippe Padel, avec Patrick Bouchain. Des gens tellement différents les uns des autres que je ne peux pas dire. Alors moi, mon rapport à l'architecture, il est... Je suis ignorant dans cette question-là, mais je ne sais pas comment dire. Peut-être si une chose, c'est que la dimension paysagère, elle n'est pas, elle n'a pas réintégré le travail de la conception de l'architecte, dans le sens où, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent quand même, l'architecte devient un objet architectural. Le travail, enfin le projet ou le résultat, qui n'est pas forcément lié à ce qui se trouve alentour. J'ai répondu à une question au début en disant dans notre métier, on a deux dimensions, le terrain et ce qui se trouve au loin. Mais pour un bâtiment, c'est pareil, à mon sens. Or, il arrive assez souvent qu'on voit des bâtiments qui n'ont aucun rapport, à première vue comme ça, ou alors c'est purement symbolique et mental, à quelque chose qui est visuel et qui appartient à ça. C'est ça, quelquefois, qui m'étonne. Je ne comprends pas pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas de tour à Toulouse, il en faut une. Là, je ne comprends pas du tout. Moi. Alors, oui et non, parce que malheureusement, c'est extrêmement difficile, c'est plutôt une bagarre d'essayer de faire que la ville, dans son extension, ne mange pas de garde-manger, je dis ça comme ça, c'est-à-dire ne s'installe pas sur des terres fertiles sur lesquelles on peut obtenir des résultats de production vivrière utile à tous. Rémi Janin, qui est un jeune paysagiste, a fait un petit ouvrage qui s'appelle « La ville agricole », dans lequel il parle de ces questions. On nous demande, à nos paysagistes, de plus en plus souvent, à quels endroits peut-on faire une culture, un élevage. Il y a de plus en plus de modes de gestion par les animaux, et ça, ce sont des choses récentes. Mais on est quand même en bagarre avec la ville, pas tellement pour des questions de pression de l'habitat, mais de la spéculation immobilière, ça n'a rien à voir. On est nul chez nous là-dessus, et moi en particulier, là pour le coup, je ne suis pas vraiment. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas nous mettre en retrait de quelque chose qui est un système vibratoire vivant à toutes les échelles, minuscule ou immense, absolument partout. Tout est en communication par ce biais. Que ces cultures-là, plutôt chinoises, japonaises, aient réussi à mettre des noms dessus et à s'en servir, ça, vraiment, c'est bien. Nous, non, pas du tout. Et ce serait vraiment. Alors là, pour le coup, on rentrerait dans quelque chose qui est la préséance du vivant à une échelle globale, c'est-à-dire qui inclut les vibrations de la planète dans son entier. Pas seulement les êtres vivants, mais tout ce qui bouge, quoi, tout bouge, quoi. Et comme je disais, on est dans une même lessiveuse, on est dans l'eau, mais on est aussi soumis aux ondes. Oui, ce serait. Ben, voilà, je ne peux pas vous répondre plus que ça, sinon je crois que c'est vraiment important de s'y intéresser.